winds 100 knots to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh.
Radio X.
Bon début de soirée et bienvenue sur les ondes de choix 98h Radio X, édition du vendredi 4 octobre 2024 des Radio X-Files. Nous sommes dans la thématique ce mercredi de l'actualité entourant les énigmes de l'histoire et les théories du complot. L'animateur de cette émission s'appelle M. Christian Page. Bonsoir, Christian.
Bonsoir, Camille.
Tu as passé une belle semaine?
Oh, excellente.
Super.
J'ai appris que j'allais recevoir mes copies personnelles de mon livre les tueurs de l'occulte la semaine prochaine. Donc,
wow.
C'était toujours un peu excitant. Non?
Ça arrive vite. Le temps passe vite.
Oui, puis il sera disponible donc, en librairie, je le rappelle, à partir du 16 octobre, donc le mercredi suivant, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, je suis très excité. C'est amusant parce que, et les gens qui nous écoutent, s'il y a des auteurs parmi eux, c'est toujours le même plaisir un peu enfantin. Hein? C'est-à-dire que même si on en a 3, 4, moi c'est mon 15e ou 16e, mais quand on le reçoit, là, t'sais, on ouvre la boîte, puis on le sent, puis on passe à travers, on sent l'odeur du papier, on touche la couverture. Il y a comme un...
C'est comme un
jouet. On a l'impression qu'on déballe, on est à Noël, puis on déballe un jouet. C'est vraiment très excitant comme expérience. Puis après ça, ben, il y a toujours l'expérience de quand tu arrives dans un magasin, une boutique, une librairie, puis bang, tu arrives devant ton livre. C'est toujours un peu excitant. C'est toujours une expérience dont... Je sais pas, peut-être que des auteurs qui ont écrit 70 livres viennent un peu blasés par ça, mais dans mon cas, je suis toujours très excité par l'expérience.
Mais la première copie a toujours une signification, je pense, quand même émotive. Est-ce que tu gardes toujours la première impression de chaque livre?
Oui. Oui, j'ai tout. J'ai même, pour les gens qui nous écoutent puis qui essaient de trouver en librairie, les dossiers mystères 1 et 2, je le répète, c'est épuisé depuis 2007 ou 2000. Ça a été publié en 2007 ou 2008, puis très rapidement, ça a été épuisé. Donc, à partir de là, je sais que les gens essaient de. Souvent, les gens m'écrivent j'essaie de trouver dossiers mystères 1 et 2. C'est à peu près impossible, à moins de tomber...
Il essaie de te soudoyer pour avoir la copie.
Oui, dans une bouquinerie ou quelque chose comme ça. Et moi-même, j'en ai pas en dehors. Oui, j'ai deux copies de chaque. Hein, deux copies du tome 1, deux copies du tome 2, mais qui sont mes copies personnelles. Puis ça, je m'en départirai pas, tu comprends? Et malheureusement, j'ai pas de copies supplémentaires que je pourrais vendre à des gens. Donc, c'est un peu malheureux. Puis il y a eu un moment donné, il y avait c'était un peu dans l'air qu'on fasse une réédition de ce livre. Là, puis finalement, moi, j'ai préféré passer à autre chose. On en a parlé avec l'éditeur. Je dis, j'ai pas envie de... T'sais, parce que c'est un ouvrage qui date de 2007-2008, quelque chose comme ça. Et il aurait fallu que je revoie... C'est des très bons livres. Hein. Je ne te cacherai pas que peut-être pratiquement toutes les semaines... J'ai recours à ces livres-là.
Okay.
Il y a tellement d'histoires là-dedans qui sont racontées... qui sont racontés de manière assez succincte sur 4-5 pages seulement. Il y a des entrevues là-dedans. Donc, c'est des ouvrages qui, pour moi, ce sont d'excellents ouvrages de référence. J'aime replonger là-dedans pour aller chercher de l'information à gauche et à droite. Mais comme ce sont des ouvrages qui datent quand même d'une quinzaine d'années, il faudrait pour moi... Pour être à jour, il faudrait que je revoie chacun des chapitres, que je vois s'il y a eu des développements, s'il y a eu des nouvelles informations.
Ça amène vraiment une réédition, puis peut-être même que ton style d'écriture a évolué depuis le temps avec l'expérience.
Oui, mais même au-delà de ça, tu racontes une histoire, tu dis « OK, ça c'était l'état de... » Je te donne un exemple assez simple. Hein. Je pense qu'il y a un chapitre qui est consacré à l'OVNI de Sainte-Marie-de-Montnoir. Donc en 2008, Sainte-Marie-de-Montnoir, pour les gens qui nous écoutent, là, je fais rapidement, là, je prends une minute pour ça, là. Mais des gens, le 20 novembre 1989, avaient observé, là, aux petites heures du matin, aux alentours de 5 heures du matin, ils étaient sortis à l'extérieur, et là, certains d'entre eux avaient observé une espèce d'une série de lumières dans le ciel. Un des témoins, qui était particulièrement bien placé pour observer le phénomène, disait que ça ressemblait un peu à un wagon de train là, dans la nuit, c'est-à-dire qu'on devinait une forme assez sombre, puis on avait l'impression qu'il y avait des fenêtres très éclairées, puis là, ils voyaient cette forme qui se tenait un peu immobile au-dessus d'un champ dans le voisinage. Et 48 heures après ces événements-là, une autre personne qui habitait en bordure du champ où on avait vu l'OVNI en question, lui regarde à l'extérieur et là il voit un cercle où l'herbe est très verte, hein, alors qu'on est en novembre, donc le restant du champ est très jauni.
Ouais.
Et là, on a un cercle qui fait à peu près là, 20 mètres de diamètre, là, grosso modo 60 pieds, où l'herbe a reverdi, ou semble avoir reverdi. Alors évidemment, les gens se disent, ce cercle-là n'était pas là avant, c'est l'OVNI qui a fait ça. Et moi-même, hein, j'étais jeune ufologue à l'époque, dans la vingtaine, je suis rendu là, j'étais impressionné par ça. Les gens avaient appelé la gendarmerie aussi, parce que comme ce cercle, cercle-là semblait être redynamisé d'une certaine façon. On comprend que les parents qui vivaient sur le pourtour du champ, puis les enfants allaient jouer dans le champ, se sont dit, est-ce que le champ a été contaminé? Est-ce que mes enfants seront irradiés s'ils vont jouer dans le champ? Et là, donc, c'est une histoire d'OVNI qui a beaucoup circulé et pour laquelle la plupart des ufologues, et moi le premier, j'étais très convaincu qu'on était en présence de ce que les ufologues appellent une rencontre rapprochée du deuxième type. Hein. Donc, deuxième type, ça veut dire une observation d'OVNI qui laisse des traces sur l'environnement. Donc, j'ai défendu ce cas-là à bec et ongles à l'époque. Ça demeurait à peu près inexpliqué, inexplicable. Et éventuellement, quand j'ai écrit le livre, et même quand j'ai écrit mon livre plus récemment, je crois que c'est en 2019 ou 2020, j'ai écrit OVNI au Québec et j'ai encore abordé cette histoire-là d'OVNI de Sainte-Marie-de-Montnoir en le présentant comme un cas de rencontre rapprochée du deuxième type. Et peu de temps après, il y a quelqu'un qui m'appelle, des gens qui travaillaient dans le domaine de la cartographie, des géographes ou un truc comme ça, eux m'appellent et ils avaient, eux, accès, parce qu'à l'époque, on comprend qu'en 1989, on n'avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait pas de numérisation, tu sais, la technologie était un petit peu déficiente à ce niveau-là. Et quand on voulait consulter des archives, il fallait ou des permis pour aller consulter des archives, et souvent des archives, il fallait savoir exactement ce que l'on cherchait, dans quel dossier. Il n'y avait pas de numérisation qui avait été faite dans l'ensemble des archives. Peu importe quelles que soient les archives, archives policières, archives du gouvernement, bon, c'était vraiment des copies papier. Puis c'est encore un peu ça aujourd'hui, là, je veux dire, les dossiers plus récents, là, disons depuis les années 2000, beaucoup de dossiers sont instantanément numérisés, mais si vous cherchez des dossiers qui datent des années 80 ou des années 90, vous allez peut-être avoir besoin d'aller fouiller dans des caisses de papier. Là. Donc, après la publication de mon livre en 2019-2020, je reçois un coup de fil de les géographes ou des trucs comme ça, ils me disent, écoutez, M. Page, on a lu votre livre, tout ça, et nous, qui travaillons au ministère des Mines et Ressources, avec un numéro de folio, on a sorti des photographies qui ont été prises du champ, des photographies aériennes qui ont été prises du champ dans les années 70 et 80, alors que la région était une région tout à fait agricole. Et on me dit, sur l'une des photographies, une photographie de 1983, je crois donc 6 ans avant l'incident OVNI, on me dit, sur une des photographies prises en été, ou à la fin de l'été, on voit très, très bien le fameux cercle dont vous parlez. On le voit, là.
Ah!
Là, je me dis, comment tu peux voir le cercle sur une photographie de 83 alors que l'incident OVNI remonte à 1989?
C'est une visite annuelle, Christian.
Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit... Et là, donc, on s'est parlé, on a eu des échanges. J'ai parlé avec le ministère des Ressources qui m'ont envoyé les fameuses photographies. Là, j'avais des numéros de folio à leur donner. Donc, ils ont été extraordinaires. Donc, ils ont cherché des numéros de folio. Ils ont regardé les photographies qui avaient été numérisées et les autres qui n'étaient pas numérisées. Ils les ont numérisées et me les ont envoyées. Et là, peu à peu, on a commencé à regarder les cadastres, le zonage et tout le reste. Et là, j'ai un peu compris ce qui s'est passé. En fait, la trace que l'on voit au sol, cette trace-là, elle est là depuis très longtemps. En fait, elle est là depuis les années 70. C'était un dépôt de fumier. Hein. C'était des terres agricoles. Il y avait une grange qui était là et il y avait un dépôt de fumier qui était là. Éventuellement, quelque part, au milieu des années 80, on a dézoné ça pour en faire une zone plus résidentielle. Donc, les terres agricoles ont reculé. Les gens, là, les maisons qui étaient là, les témoins du phénomène OVNI, là, c'était toutes des maisons qui avaient moins d'une année. Donc, ces gens-là, là, en une année, parce que moi, quand je lui demandais, le cercle était-il là avant, eux me disaient non. C'est vrai. En fait, c'est pas qu'il était pas là, c'est qu'il n'avait pas remarqué. Pas. Ah. Il ne savait pas ou il n'avait pas remarqué. Hein? Et ce n'est donc, s'ils avaient été là pendant, si les maisons avaient été construites depuis 10 ans, probablement que beaucoup d'entre eux auraient dit, ce cercle-là, là, je l'ai vu il y a 2-3 ans. Parce que quand arrivait l'été, et c'est là qu'est le jeu, hein, où on s'est fait un peu avoir, quand arrivait l'été, le champ était tellement là, riche en engrais, que quand arrivait l'été, il y avait une végétation assez particulière qui poussait sur le cercle, qui était différent du reste de la végétation. Mais les gens ne le savaient pas parce qu'ils avaient emménagé quelques mois plus tôt, à la fin de l'été ou au début de l'automne. Tu comprends?
De là l'importance du témoignage, hein, puis de savoir voilà, à qui on a affaire.
Donc, eux, là, quand ils me disaient, ben non, ce cercle-là, on ne l'a jamais vu avant. En fait, il fallait interpréter, on ne l'a jamais vu avant, mais ça fait 6 mois qu'on reste ici.
En fait, on ne l'avait pas vu encore. Ouais, c'est ça, on l'avait pas vu.
Et là, comme il y a eu cet incident OVNI, ben là, les gens ont soudainement porté une attention au champ. Et c'est cette attention qui dit, hey, il me semble que dans le champ, là, l'herbe est bien plus verte qu'ailleurs. Et là, soudainement, ils ont dit, oui, c'est justement au-dessus de cet endroit-là, par un concours de circonstances, que les gens disent, ben là, on a vu un ovni, puis il se tenait à peu près au-dessus du champ. Donc, ils ont fait ce rapprochement-là. Mais en réalité, là, c'est une coïncidence. Si des gens observaient des lumières au-dessus du champ, puis qu'il y avait une trace dans le champ, c'est une simple coïncidence. Parce que la trace, elle était là depuis des années, puis elle était provoquée par un dépôt de fumier qu'il y avait là. Et on a les photographies prises par le ministère des Ressources, Énergie, tout ça, qui montrent la trace en question. Donc, quand j'ai écrit mon livre en 2019-2020 sur les ovnis, et qui plus est, mon livre en 2007-2008, le dossier mystère, où j'ai parlé de cette histoire-là, ben chaque fois, bien sûr, et avec toute l'honnêteté que j'avais, j'ai présenté ça comme étant une histoire, une rencontre du deuxième type. Mais aujourd'hui, en 2024, si tu me poses la question, je te dirais non. L'histoire de Sainte-Marie-de-Montnoir, c'est une observation de ce que les ufologues appellent le premier type, c'est-à-dire que des gens ont vu des lumières, un objet, une machine volante, puis un aéronef, qui était assez près, hein, parce que la définition d'une rencontre du premier type, c'est que le témoin est assez près pour voir une structure, une forme. C'est pas simplement une lumière dans l'obscurité. Et dans le cas présent, il y avait un témoin, notamment, je me rappelle, qui lui disait, écoute, l'objet devait se trouver à peu près à 100 mètres de moi. J'avais l'impression que c'était comme un wagon. Je pouvais deviner une espèce de forme avec des lumières. Ça, faut faire attention à ça parce que notre cerveau fait ça. Si je mets 3 lumières là, dans l'obscurité, j'allume 3 lumières dans le ciel, les gens vont regarder les lumières et leur cerveau va imaginer un triangle au milieu. Tu comprends?
Ah ouais, naturellement.
Naturellement, il fait ça. Il va essayer de relier les points. On appelle ça un triangle ou un carré de Karska. Là, c'est notre cerveau qui fait ça. Donc, quand le témoin dit il y avait les lumières dans le ciel, puis là, j'avais l'impression que ces lumières-là étaient réunies entre elles par une forme. Ça, il faut se méfier de ça. Maintenant, on sait qu'il y a un biais cognitif qui fait que notre cerveau, involontairement de notre volonté, hein, pour un pléonasme, il va créer cette forme-là. Donc ça, il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais néanmoins, je n'ai pas d'explication pour les lumières qui ont été observées ce matin-là. Donc, je ne sais pas ce que c'est. On pourrait le classer là, aisément dans la catégorie des ovnis, objets volants non identifiés, ce qui ne nous force pas à croire aux visites extraterrestres, là, forcément. Là, mais je n'ai pas trouvé d'explication. Même aujourd'hui, en 2024, je ne sais pas ce que les gens à Sainte-Marie-de-Montloire ont observé ce matin-là dans le ciel. En revanche, ce que je sais, c'est que la trace au sol n'a rien à voir avec la présence de ces lumières. Et ça, on a des photographies pour le prouver. Donc, tu comprends que si je devais réécrire aujourd'hui un chapitre sur l'OVNI de Sainte-Marie-de-Montnoire...
Il y a une bonne partie à sabrer, là.
Oui, c'est ça. Le chapitre sera amputé de plusieurs éléments. Donc, tu comprends bien l'exemple. Hein. Donc, quand j'ai écrit mon livre en 2019-2020 sur les OVNI au Québec, j'ai commis cette erreur-là, mea culpa. Quand j'ai écrit mon livre également en 2007-2008, Dossier mystère, le tome 1 et 2, ben, j'ai fait également la même erreur. ailleurs, puisque je ne le savais pas, je ne pouvais pas deviner quelque chose que j'ignorais, là. Je présentais ça au mieux de mes connaissances. Mais c'est un peu l'exemple de Dossier mystère, tome 1, tome 2, publié en 2007-2008. Si je devais aujourd'hui rééditer ces ouvrages-là, je serais obligé de me replonger dans ces ouvrages-là, regarder quel est l'état de chacune des histoires que j'ai racontées, est-ce que de nouvelles informations ont été apportées, avancées, qui nous permettent d'avoir un jugement différent. Et honnêtement, je n'avais pas envie de faire ça.
Non, c'est
je n'avais pas envie de faire ça. J'ai dit, bon, OK, c'est comme ça, puis c'est comme ça. Puis ils ont été publiés comme ça à l'époque. Puis à l'époque, ben, j'ai écrit ce que je croyais être la vérité de 2007-2008. Aujourd'hui, 2024. Et ça, c'est un peu un gros problème dans l'univers du paranormal. Puis on en a souvent parlé ensemble. C'est étonnant de voir comment les gens qui adhèrent à des... ceux qui entendent parler des mystères ne veulent pas qu'on solutionne le mystère.
Ouais.
Tu comprends? C'est comme les enquêteurs disent ah, nous on enquête, t'sais. Mais la qualité première d'un mystère, c'est qu'il soit solutionné. Tu comprends-tu? C'est pour ça que c'est un mystère. Il faut le solutionner, c'est le défi. Mais on dirait que dans cet univers-là, on n'accepte pas ça. Et là, si aujourd'hui quelqu'un, je sais qu'il y a des ufologues qui nous écoutent peut-être, qui vont dire ah, oh, Christian Page, c'est un faux cul. Il a changé d'opinion. En 2007, il disait que l'OVNI de Sainte-Marie-de-Montloire, c'était une extraordinaire histoire. Puis en 2024, il dit que c'est une moins bonne histoire. C'est pas parce que j'ai changé mon fusil d'épaule. C'est pas ça. C'est que de nouvelles informations
sont arrivées,
des nouveaux témoignages, des nouveaux éléments qui nous permettent d'avoir un regard différent, d'avoir solutionné une partie de l'énigme. J'ai fait exactement la même erreur avec, ben, la même erreur, mais la même situation. Il y a quelques années, j'avais écrit sur l'affaire du col Dyatlov, et je disais, ben, c'est très mystérieux comment ces jeunes ont pu mourir dans la neige. Et j'avais éclipsé, hein, je le disais, là, noir sur blanc, j'ai éclipsé l'hypothèse de l'avalanche,
ouais.
Parce que le rapport original, hein, cet incident-là qui remonte à 1959, dans le rapport original qui avait été signé par un ancien des services de police qui s'appelait Lev Ivanov, il avait commencé son rapport en disant « l'avalanche n'est pas incluse dans les hypothèses, on l'exclut » et puis il termina en disant « ces jeunes sont morts parce qu'ils ont cédé à une force mystérieuse, inexplicable, un truc comme ça ». Et quand j'avais écrit la première fois sur l'affaire Dyatlov, j'ai commis exactement cette erreur-là. Je me suis fié au rapport de Lev Ivanov et j'ai éclipsé l'hypothèse de l'avalanche. Mais on le sait, je pense qu'on en a parlé à quelques reprises ensemble. Je suppose, tu sais de quoi je parle?
Absolument, puis je trouve okay, que bon. C'est la beauté donc, justement du médium qu'on peut utiliser avec la radio, c'est que même si on a écrit quelque chose ensuite, ben, ouais, on peut faire un suivi d'actualité
voilà.
Là-dessus.
Voilà. Et comme l'affaire s'était passée en 1959, ben, lorsqu'il est arrivé l'année 2019, l'ancienne Union soviétique n'existe plus, c'est la Russie. Bon, évidemment, il y a tous les problèmes, la Poutine, puis l'Ukraine, puis tout ça, mais au-delà ouais. De l'information circule plus aisément qu'elle circulait là, à l'époque, dans les années 50, là, à l'époque de Khrouchtchev et autres. Là. Donc, et en 2019, comme l'affaire Dyatlov, était maintenant connu en 1959, hein, ça même pas ça, je te dirais jusque dans les années 70, le monde occidental avait absolument pas entendu parler de cette histoire-là. Ça avait été mis sous le tapis, puis on n'en parle plus. Et puis en 2019, donc pour le 60e anniversaire de l'affaire Dyatlov, l'ancien KGB, hein, qui s'appelle le FSB là, aujourd'hui, là, dit « ben voilà, on va ressortir les dossiers sur l'affaire Dyatlov, puis on va essayer de revoir un peu ce qui s'est passé, on va refouiller dans ces dossiers-là ». Et à partir de là, il est arrivé de nouveaux comptes rendus, et l'un d'entre eux, puis je pense qu'on en avait parlé ensemble, l'un de ces comptes rendus qui était passé un peu inaperçu, qui n'avait pas été retenu d'ailleurs par Lev Ivanov dans son rapport de 1959, c'était un des secouristes sur la montagne. Il avait dit, quand je suis arrivé là, j'ai vu où se trouvait la tente. Je pouvais voir des marques qui montraient qu'ils avaient donné des coups de pelle pour aplanir la surface où ils ouais. ont installé leur tente.
Et ça a été l'erreur.
Ah ouais, ça c'est catastrophique parce que les gens qui nous écoutent, là, on est dans un pays qui a sa petite période hivernale.
Ah, que la neige neige, oui.
qu'il a neigé. Hein? Et quand on le sait tous, là, quand on sort parfois, lorsqu'il y a des froids intenses ou des périodes où on passe de froids intenses à un peu de redoux, souvent on va sortir à l'extérieur, puis sur la neige, il y a une croûte de glace. Mais dès qu'on brise cette croûte de glace, en dessous, on a de la neige molle, là, de la neige meuble. sable, hein, qui est comme poudreuse un peu. Donc, une couche de glace et en dessous, une neige un peu poudreuse. Si tu brises ça, ben, tu brises l'uniformité de la surface. Et c'est exactement ce qu'ont fait les membres du groupe Dyatlov. Lorsqu'ils sont arrivés pour aplanir la pente, ils ont brisé la glace pour essayer de mettre ça à plat. Mais en faisant ça, ils ont brisé l'homogénéité de toute la surface de glace. Ils se sont engouffrés dans leur tente. Et quelque part, on était dans la nuit du 1er au 2 février 1959, quelque part durant la nuit, une lame de neige, pas une avalanche, une lame de neige glissée sur la tente. Hein. Ça s'est brisé un peu plus haut, puis là, la lame de neige a avancé, puis elle a engouffré la tente. Mais pas suffisamment pour que les secouristes, qui sont arrivés sur place deux semaines après, pas suffisamment pour que les secouristes reconnaissent les signes d'une avalanche. Hein, il y avait neigé au cours des deux dernières semaines, donc lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu la tente, ils ont vu qu'il y avait de la neige sur la tente, mais ils ont conclu que la neige qui était sur la tente devait être de la neige qui avait été ou soufflée par le vent, ou la neige des dernières tombées de neige qui avaient eu lieu, les chutes de neige. Il y avait eu 3 ou 4 chutes de neige au cours des derniers jours. Ben, ils ont dit, ouais, bon, il y a 15 cm de neige sur la tente, ça doit venir de ces chutes de neige. Donc, c'est pourquoi ils ont éliminé l'avalanche. Mais on sait, là, grâce à ce petit témoignage qui était passé inaperçu, à partir de cette information, on le sait, des spécialistes de la neige et des coulées de neige, notamment en Suisse, ils ont même fait appel à des gens des studios Disney qui avaient travaillé sur le film La Reine des Neiges, qui avaient numérisé des mouvements de neige.
C'est fou.
Et on a pu reproduire exactement ce qui s'était passé sur la montagne ce soir-là. Donc, cette petite lame de neige qui a glissé sur la tente, les jeunes ont été surpris, ils sont sortis dans l'obscurité. Puis dans l'obscurité, là, c'est vraiment l'obscurité, il n'y avait pas de lune ce soir-là. Donc, ils ne voyaient même pas leurs mains devant eux. Ils ont pensé, hein, ils étaient vêtus légèrement puisqu'ils étaient dans leur sac de couchage, ils ont pensé qu'une avalanche était en préparation un peu plus haut sur la montagne et ils ont fui au bas de la colline pour essayer d'aller se mettre à l'abri derrière les arbres. Puis je pense qu'on aurait tous...
fait pareil.
Réagit un peu de la même façon. Ouais. Ils se sont dit, si on réussit à rejoindre la bordure du boisé, on va être protégé de l'avalanche. Mais une fois qu'ils se sont rendus là, la fameuse avalanche n'est jamais arrivée. Là. Et là, le froid intense, hein, il faisait moins 25, moins 30 cette nuit-là là, sur la montagne. Ils sont vêtus avec des chaussettes, des chandails, des chemises. Ils n'ont pas de manteau, rien. Là. Donc, ils avaient scellé leur sort. Là. Ils sont morts durant la nuit, ils sont morts d'hypothermie. Puis, 4 d'entre eux, 2 sont morts au pied d'un arbre, 3 ont essayé de remonter vers la tente qu'ils n'ont jamais réussi à rejoindre, ils sont morts en chemin. Puis tu comprends que dans l'obscurité, la seule chose qui pouvait les guider vers la tente, c'était leurs propres empreintes dans la neige, hein, qu'ils avaient fait en descendant. Ouais. Si on suit nos empreintes, on va peut-être... Mais malheureusement, le froid les a terrassés. Et un autre groupe, 4 autres individus, ont essayé, eux, de descendre vers la vallée. Parce que comme les gens qui font de la marche ou du trekking extrême, lorsqu'on transporte des objets, on veut pas les transporter, ça donne rien de les transporter aller-retour. Donc au départ, on se fait des camps de base, on laisse du matériel, on avance, on laisse du matériel, du matériel qu'on va récupérer, de la nourriture ou des vêtements qu'on pourra récupérer sur le chemin du retour. Et c'est un peu ce que deux sont morts au pied d'un arbre, 3 ont essayé de remonter vers la tente, 4 se sont dit on va redescendre dans la vallée parce qu'on va essayer de rejoindre la vallée parce qu'on sait que dans le fond de la vallée, on a des vêtements, on a de la nourriture et on pourra peut-être se mettre au chaud. Malheureusement, comme ils étaient dans l'obscurité, ils devaient marcher en se tenant chacun par les épaules ou par la main pour être sûr de ne pas se perdre dans cette obscurité-là. Et ils sont arrivés, malheureusement, le groupe est arrivé sur les bords d'un petit ravin et quand le premier est tombé, les autres ont suivi. Donc, ces gens-là qu'on a retrouvés au fond du ravin, évidemment, avaient des blessures, mais pas de blessures extérieures, mais des blessures internes, hein, des bras cassés, des jambes brisées, des côtes brisées. Puis là, ben, ça a fait fantasmer des gens, été battus. Non, ils sont tombés. C'est des blessures liées à une chute. Et quand c'est vrai, quand on a retrouvé les corps, particulièrement les corps du ravin, on les a retrouvés qu'à la fonte des neiges, 2 mois et demi plus tard, ben, les prédateurs avaient commencé à s'attaquer aux victimes. Hein, donc, il manquait les yeux, une langue, etc. Mais ça, c'était dû à des busards, notamment, qui avaient fait le travail. Donc, il ne faut pas essayer de voir le Yeti et les extraterrestres là-dedans, peu importe. Mais c'est une histoire qui est fascinante. Hein? Et on voit qu'un petit détail a complètement fait basculer... on est passé du mystère à un drame humain.
Ouais.
Mais, bon... Et là, ben, évidemment, si j'écris aujourd'hui sur l'affaire Dyatlov, j'aurai pas la même interprétation des faits que je l'ai eu il y a 15 ans quand j'ai écrit sur le sujet.
Est-ce qu'il est considéré solutionné ou parce qu'on n'aura jamais la vérité vu que tout le monde est décédé, ça reste encore un mystère, cet événement-là?
C'est ça. Donc, c'est pas parce que, encore une fois, je sais, les gens disent « Ah, oh, Christian Page, c'est un fou cul, il y a 15 ans, il a écrit sur l'affaire Dyatlov, c'est un super mystère, puis aujourd'hui, ça n'en est plus un. » Non, parce que c'est comme ça la réalité. Hein, c'est comme une enquête de police. Au lendemain d'un crime, les policiers baignent dans le mystère. Hein, mais des fois, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, parfois on réussit à mettre la main sur... Heureusement, hein, souvent, grâce à la criminalistique, on réussit à mettre la main sur le coupable. Donc, ce qui avait commencé comme un mystère a été solutionné. Et puis, il y en a de temps en temps de ces crimes qui resteront jamais solutionnés, comme il y a des mystères qui ne seront peut-être jamais solutionnés parce qu'on n'a pas d'éléments qui nous permet de tirer une conclusion. Mais, encore une fois, il faut faire attention. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Hein. Les gens, il y a des crimes qui ont été commis, puis on le sait, on fait une émission ensemble sur justement Suspect X, où on parle de crimes, des crimes qui ont été commis dans les années 50 ou 60, qui était finalement destiné à ne jamais être solutionné, 30 ou 40 ans après, grâce au séquençage ADN, on a pu remonter jusqu'à l'assassin qui, on comprend, 30 ou 40 ans après le crime, devait se penser un peu à l'abri. Hein?
Ouais.
Et puis, à un moment donné, un matin, ça cogne à sa porte, puis voilà, on a retrouvé votre ADN sur un chemisier de la victime, etc. Donc, on ne sait pas quel sera l'état de la science dans 20, 30 ans. Peut-être que certains mystères aujourd'hui qui nous semblent tout à fait impénétrables seront éventuellement solutionnés.
Et la beauté de la chose, c'est que ça fait un pont parfait pour le premier sujet dont tu veux nous parler, sur justement énigmes de l'histoire. On fait ça depuis des années, Christian.
Oui, et tu vois, c'est justement, je me disais, quel bon pont, hein? On ne sait pas ce que l'histoire nous réserve, puis les technologies nouvelles, et on est exactement dans cet univers-là. Je voulais te parler du manuscrit de Voynich.
Oui, on en a parlé.
En a parlé à quelques reprises ensemble.
Même au début de la saison, il me semble qu'on a commencé avec le manuscrit de Voynich. Donc,
c'est possible.
Il y a d'autres informations, ça va vite.
Il y a de nouvelles informations. Le manuscrit de Voynich, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas de quoi on parle, il est considéré chez les amateurs de mystères historiques comme étant le plus mystérieux manuscrit du monde. Et pourquoi ce manuscrit? Bon, je prends quelques minutes pour raconter son histoire parce qu'elle est vraiment fascinante. On est en 1912, on a un antiquaire de livres qui s'appelle Wilfrid Voynich, qui a boutique à New York. Quand je dis qu'il est un antiquaire de livres, il parcourt le monde, achète de vieux livres, de vieux manuscrits, principalement des manuscrits qui datent d'avant l'imprimerie. Donc, il parcourt le monde. Et on le sait, durant la Renaissance et le Moyen-Âge, c'était surtout les monastères où on retrouvait beaucoup de manuscrits avec des moines copistes. Hein. C'est pour ceux, par exemple, qui ont lu le roman d'Umberto Eco ou vu le film « Au nom de la rose », on voit ces fameux moines copistes là, qui travaillent à recopier de vieux documents. Donc, en 1912, Wilfrid Voynich se trouve à Londres. Il est justement dans un voyage à travers le monde pour acheter de vieux manuscrits. Certains de ses collègues qu'il rencontre lui disent « Ben voilà, on a appris que tout près de Rome, il y a un monastère où les moines veulent se départir d'une partie de leur collection parce qu'ils ont besoin de sous pour rénover le monastère. » Alors Voynich s'envole, se rend à Rome, rencontre les fameux moines en question, lui propose un paquet de vieux livres, de vieux manuscrits. Donc il achète un lot qu'il ramène aux États-Unis. Il y a un de ces manuscrits-là qui l'intrigue particulièrement. C'est un très, très beau manuscrit. C'est un petit livre qui n'est pas très gros. Hein. Imaginez-vous, là, pour les gens qui ne l'ont jamais vu, moi, j'ai eu la chance de l'avoir pendant 15 minutes entre les mains.
Wow.
Il est à peu près gros. Imaginez-vous une grosse tablette. Imagine une tablette numérique, mais un peu plus gros que ça. Là.
Okay.
Mais vous avez une bonne idée un peu de la taille du manuscrit de Voynich. Donc, c'est un qui compte à peu près 230 pages, 235 pages, quelque chose comme ça. Il devait à l'origine en avoir à peu près 250. On a perdu quelques feuillets, mais bon, c'est à peu près le manuscrit. Voynich est très intrigué par le manuscrit parce qu'il est très, très beau. Une belle couverture en cuir, en peau de mouton. L'intérieur, c'est du papier vélin de très grande qualité. Et puis à l'époque, hein, il faut se rappeler qu'on n'allait pas chez Bureau en gros acheter des rames de papier. Là. Ça ne marchait pas comme ça. Le papier, c'était...
À mitaine, comme on dit.
C'était à mitaine, puis c'était fait là, avec la pâte à papier, tout ça, puis on était coupé. Ça coûtait cher, du papier. Donc, le papier, c'est un beau papier vélin, la couverture est très, très belle, et le manuscrit se présente sous quatre volets. Le premier volet, on voit beaucoup de très beau, hein, très richement illustré. La première partie, on voit des plantes, donc Voynich, je dis, ça doit être un traité qui parle de plantes. La deuxième partie, on voit des signes du zodiaque. À l'époque, c'était pas de l'astronomie, c'était plus de l'astrologie, donc ouais. Ça doit parler d'astrologie. La troisième partie, peut-être la partie la plus intrigante et celle qui fait le plus fantasmer les amateurs de mystère, c'est on voit des femmes, toutes des femmes enceintes, qui oui. sont dans des espèces de bassins, et les bassins sont reliés les uns aux autres avec des espèces de tuyaux. Il y a comme de l'eau verte qui coule d'un bassin à un autre, comme des vases communicants. C'est très mystérieux. Et la dernière partie, là, on voit plutôt des racines. Donc, encore une fois, Voynich dit, c'est peut-être un traité de médecine ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, la dernière fois qu'on en a parlé, c'est justement à propos du fait que on essaie de décrypter le manuscrit, je vais en revenir, là, mais il y avait une nouvelle hypothèse qui disait que c'était peut-être un manuscrit de médecine à cause justement de cette section où on voit beaucoup de femmes dans des bassins. Certains ont proposé, on dit que c'était peut-être finalement intégralement un manuscrit qui traitait de la médecine et particulièrement de la médecine chez les femmes enceintes. Peut-être que les signes du zodiaque devaient être liés peut-être au cycle menstruel, puis des trucs comme ça, puis les plantes étaient peut-être le moyen de soulager, par exemple, lorsqu'il y a des problèmes de crampes menstruelles. Tu sais, il y avait toute une philosophie autour de ça. Mais bon, non, si on revient à ce 1900 et notre Wilfrid Voynich, il voit le manuscrit, il voit ses parties, et il voit que l'écriture ressemble, ça ressemble un peu à du sanskrit ou de l'hébreu, mais il n'est pas certain. Pourtant, Voynich est un individu qui est polyglotte, c'est un individu qui est très... c'est un érudit, il ne reconnaît pas l'écriture du manuscrit, donc il en parle à des collègues, et très rapidement, le verdict tombe. Non seulement l'écriture est inconnue, elle n'a jamais existé, c'est une écriture qui n'existe pas, ni dans le passé, ni dans le présent. Quant aux plantes et aux dessins, beaucoup de ces plantes ou de ces dessins représentent des choses qui n'existent pas non plus. Hein. Des plantes qu'on ne connaît pas, les signes du zodiaque représentent des régions, des constellations d'étoiles qu'on ne connaît pas. Donc, c'est très mystérieux, mais surtout l'écriture. Et donc, depuis la découverte du manuscrit de Voynich, on s'est lancé dans plein d'hypothèses. Certains ont même pensé que ça pouvait être une fraude. Hein. Voynich aurait pu prendre du vieux papier sur de vieux manuscrits et fabriquer le manuscrit en question en inventant du grand n'importe quoi pour essayer d'en obtenir un fort prix, mais on sait que c'est pas ce qui s'est passé. Voynich n'a même jamais vendu le manuscrit. Il l'a gardé. Il a été obsédé par le manuscrit. À son décès, il le léguait à sa femme. Et au décès de son épouse, elle l'a légué à une secrétaire qui avait été commune à son mari et à elle. Et elle, à son décès, elle en a fait don à l'université de Yale au Connecticut. Et aujourd'hui, le manuscrit se trouve dans la collection des manuscrits rares qu'on dit la collection Beinecken. Et depuis cette époque, évidemment, tout le monde a essayé de percer le manuscrit de Voynich. On sait aujourd'hui qu'on a réussi même à trouver dans des correspondances de têtes couronnées d'Europe, on a réussi à trouver une lettre qui date du 16e ou 17e siècle où quelqu'un écrit au roi ou un conseiller du roi en lui disant « J'ai eu un très drôle de manuscrit entre les mains, il est écrit dans une langue inconnue. » Et clairement, la personne décrivait le manuscrit de Voynich. On sait également qu'une analyse au carbone 14 situe le manuscrit de Voynich aux alentours à peu près de 1430, donc la première moitié du 15e siècle. Ce qui est plate, parce qu'à l'époque, hein, on s'est dit, si le manuscrit n'est pas une fraude, la seule personne qui aurait été en mesure d'écrire un manuscrit comme celui-là, c'était peut-être Léonard de Vinci ou un alchimiste britannique anglais qui s'appelait Roger Bacon. Mais avec cette analyse au carbone 14, on découvre que ça tombe à la mauvaise date parce qu'à ce moment-là, Roger Bacon est mort et Léonard de Vinci n'est pas encore né. Donc, nos deux meilleurs candidats viennent de tomber. Et quand on parle de science et d'avancée de la science, et c'est là que c'est extraordinaire, donc on ne sait pas. Ce que l'on sait avec toutes les analyses qui ont été faites jusqu'à maintenant, c'est que l'écriture n'est pas du grand n'importe quoi. On sait qu'elle répond à des règles de syntaxe, à des règles d'orthographe également. C'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et là, on arrive avec une nouvelle information qui est tout à fait extraordinaire. En 2014, l'Université de Yale ont procédé, parce que évidemment, plein de gens veulent voir le manuscrit de Voynich, ils veulent en avoir une copie entre les mains. Je l'ai eu, moi, puis on comprend aussi quand les réseaux de télévision font des reportages sur des trucs un peu bizarres, on veut voir le manuscrit, on veut voir le vrai. Et les gens qui veulent travailler à ça, essayer de le décoder, hein, parce que les meilleurs cryptographes au monde, ceux de la CIA, du FBI, tous ces gens-là se sont brisés les dents sur sur l'interprétation du manuscrit de Voynich. Donc, en 2014, l'Université de Yale a procédé à une numérisation de chacune des pages du manuscrit à très, très haute définition. Ils ont produit un nombre très limité du livre du manuscrit de Voynich. J'en ai une dans ma bibliothèque,
ah,
tu comprends bien.
Ah oui? OK.
Oh, absolument. Et je découvre dans cet article, hein, parce que là, c'est un article qui vient de paraître, et qui a été publié par la directrice exécutive de la Medieval Academy of America, hein, donc c'est un gros titre très prestigieux. Ce que j'apprends dans cet article, c'est quand lorsqu'ils ont fait ça en 2014, qu'ils ont numérisé le manuscrit de Voynich, il y a plusieurs pages qui ont été des feuillets qui ont été numérisés avec sous d'autres types d'éclairage. C'est-à-dire que certaines pages ont été numérisées normalement, mais on a également numérisé des pages en utilisant de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Donc, on a peut-être une dizaine de pages qui ont été numérisées sous ces éclairages. Et ces pages n'ont jamais été rendues publiques. Ce n'est pas un secret, là. C'est simplement que l'université n'a pas jugé bon de les rendre publiques. Donc, ils avaient ces fichiers-là en archive, puis merci, bonsoir. Et voilà que Lisa Fagan-Davis, qui est, comme je l'ai mentionné, la directrice exécutive de l'Académie médiévale des États-Unis de l'Amérique, a eu accès à ces dossiers-là. D'ailleurs, elle les a rendus tout de suite publics. Hein. Dès qu'elle a eu les pages entre les mains, elle a réalisé ce qu'elle tenait entre les mains. Elle les a immédiatement publiées sur le site de l'Académie et sur son propre site personnel.
Ça montre la bonne foi de la chose.
Et ce que l'on voit sur ce manuscrit-là, bon, jusqu'à maintenant, les gens diront ça ne change pas grand-chose. C'est vrai, mais il faut anticiper. Hein. Ce que l'on voit là-dedans, c'est qu'on voit que l'auteur du manuscrit de Voynich, sous différents éclairages, ultraviolet ou infrarouge, on voit que l'auteur avait écrit autre chose.
Ah, ça, j'aime ça.
Et ces écritures-là ont disparu, elles se sont effacées avec le temps. Donc, peut-être qu'en les regardant, hein, par exemple, j'ai en tête une image là, où on voit un des fameux signes du zodiaque. On voit qu'entre les signes du zodiaque, il a fait des annotations qu'on n'avait jamais vues. Donc là, on les voit pour la première fois. Ce que l'on découvre également, c'est, et ça, c'est peut-être l'élément le plus exceptionnel, on voit sur la page de garde, d'ailleurs, Voynich l'avait lui-même souligné, il avait écrit à un moment donné, il dit, j'ai l'impression que sur la page de garde, il y avait de l'écriture qui a disparu. Mais là, sous cet éclairage-là, on voit que quelqu'un, et ce quelqu'un-là, on croit, on peut l'identifier comme étant possiblement Johannes Marcus Marcy, qui était un médecin et alchimiste qui a eu le manuscrit, qui était propriétaire du manuscrit entre 1662 et 1665, donc pendant 3 ans.
Okay.
Et là, on voit comme 3 colonnes. Et ces 3 colonnes-là, on voit que c'est une tentative de déchiffrement du manuscrit. Donc, dans une première colonne, on voit que probablement là, ce Marcus Marcy a écrit des lettres en latin, hein, A, B, C, D, E, là, l'écriture qu'on utilise. Dans la deuxième colonne, il a reproduit des signes du manuscrit de Voynich. Et dans la troisième colonne, il a mis des caractères qu'on appelait, bon, ça peut paraître un peu étrange, là, mais on appelait ça de l'écriture humanitaire ou humaniste. Hein, on a tous, peut-être que les gens ont déjà entendu parler de l'espéranto, là, une espèce d'écriture.
Oui, la fameuse langue universelle qu'on voulait vendre,
langue universelle. Ben déjà, au début là, de la Renaissance, il y avait dans l'univers des milieux des autres, parce que c'est une écriture, l'écriture humaniste a été utilisée par moins de 10, là, des poètes italiens notamment, qui avaient développé cette espèce d'écriture qu'on voulait éventuellement être une écriture internationale, qui était un mélange de latin, d'espagnol, d'italien, un mélange d'à peu près tout. Ça n'a pas fonctionné finalement, mais on s'est dit peut-être que comme c'est une écriture qui a été très peu utilisé, qui est très peu connu et dont on n'a à peu près aucun exemple, si ce n'est quelques lettres qui ne sont parvenues. On voit que, visiblement, ce Johannes Marcus Marcy a pensé que ça pouvait être l'écriture utilisée. Donc, il a reproduit dans la troisième colonne des symboles de cette écriture dite humaniste et on voit que ça ne correspond pas à l'écriture de Voynich. Donc, visiblement, après quelques essais, il a abandonné cette tentative de déchiffrer le manuscrit. Donc, c'est sûr que si on le regarde comme ça, on se dit, ça nous avance à quoi? Ça nous avance à rien, on n'est pas plus avancé, c'est vrai. Mais on ne parle ici que de quelques feuillets qui ont été numérisés sous l'ultraviolet ou l'infrarouge, qui nous révèlent des informations qu'on ne voyait pas dans le manuscrit. Donc, imagine-toi si on passait maintenant, on appliquait la même technique aux 230 pages qui existe toujours aujourd'hui du manuscrit de Voynich. On pourrait y découvrir toutes sortes de nouvelles affaires, de nouvelles écritures, de nouvelles références qui permettraient finalement peut-être de comprendre qui était l'auteur du manuscrit de Voynich et qu'est-ce qu'il avait en tête au moment de fabriquer ce manuscrit qui est tout à fait exceptionnel. Donc, tu as tout à fait raison, ça faisait un excellent pont avec cette idée-là de voir, il ne faut jamais présumer de ce que la science pourra nous apporter dans 5 ans, 10 ans, dans 20 ans. Il y a 10 ans, tu m'aurais parlé de ça quand l'Université de Yale a fait le manuscrit, je n'aurais jamais imaginé que sous des éclairages différents, on pourrait trouver des informations qu'on n'avait pas déjà vues. Le manuscrit avait été tellement consulté au cours des 80 dernières années que je me disais, c'est pas possible qu'il y ait quelque chose d'aussi important qui nous soit passé sous le nez. Mais oui, et voilà, la science vient de nous apporter un élément supplémentaire. C'est pas la solution au manuscrit, mais on est sûrement sur la bonne voie.
C'est la beauté, je dirais, Christian, de l'évolution des technologies et des inventions.
Oui, absolument, absolument. Est-ce que tu veux qu'on prenne une pause et je te reviens avec la chouette d'or?
Je te confirme qu'on a besoin de s'arrêter de quelques minutes. Et oui, effectivement, le prochain sujet suivra au retour de la pause, ici même, à Radio X.
Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission, le prochain sujet que Christian a teasé avant la pause, je n'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que la chouette d'or?
Ben oui, c'est ça, c'est un sujet qui est amusant parce que les gens qui nous écoutent, je sais qu'il y a des gens qui sont en France qui nous écoutent et pour eux, la chouette d'or, c'est légendaire dans le pays. C'est une chasse au trésor. Et c'est assez amusant, hein? L'affaire remonte à 1993. On a deux individus, un type qui s'appelle Régis Hauser, qui va prendre le nom de Max Valentin, et un de ses collègues, Michael Becker, ils vont faire une chasse au trésor. Donc, ce qu'ils font, hein, ils vont appeler ça la chouette d'or. Ils font une chouette, hein, qui est faite, une chouette, on comprend, un hibou, là, dans cette famille-là, hein, donc, qui est faite en argent, en or, qui est sertie de rubis et de diamants, dont la valeur est estimée, là, grosso modo, à quelque chose comme 150 000 euros, là, donc 200 000 dollars à peu près. Et l'idée, il publie, donc il cache la chouette. En fait, il cache une réplique de la chouette. Au début, en fer. Quelques années après, ils vont aller voir, puis ils vont la déterrer, ils vont la remplacer par une en bronze pour qu'elle dure plus longtemps. Mais bon, ils enterrent la chouette. Et là, ils vont publier ça. Ils l'enterrent en avril 1993. En mai 93, ils publient un ouvrage, un tout petit ouvrage là, qui fait une quarantaine de pages, qui s'appelle « Sur les traces de la chouette d'or ». Et dans ce livre-là, ils donnent... Bon, ils expliquent c'est quoi l'idée du jeu. Hein, c'est une espèce de grande chasse au trésor sur le territoire de la France. Et ils donnent une série d'énigmes. Et si tu résous les énigmes, ça va te conduire à l'endroit où est enterrée la réplique de la chouette. Tu déterres la chouette et là, il y a comme évidemment la véritable chouette est gardée dans un coffre. Et puis bon, si la découverte est authentifiée, tu mérites la chouette. Donc au départ, quand Max Valentin, le pseudonyme utilisé, et Becker pensent à cette idée de chasse au trésor, ils ont l'impression que ça va durer un an ou 18 mois, mais pas beaucoup plus que ça. Et finalement, elle va durer 31 ans, cette chasse. Et on a appris hier, parce que bon, entre-temps, Max Valentin est décédé, son collègue Michel Becker est toujours vivant. Et Michel Becker a annoncé hier sur son site internet qui est consacré à la chouette, à cette fameuse chasse au trésor, il a annoncé que quelqu'un avait finalement, après 31 ans, trouvé la fameuse chouette en question.
Et pourtant, donc, les Français sont réputés pour être bons dans les énigmes, là. Avec Fort Boyard, je comprends pas.
Oui, c'est ça, c'est un peu dans ce style-là, genre Fort Boyard. Donc, la chasse aura duré 31 ans, elle est confirmée par Becker. Il n'a pas donné le nom de la personne qui a trouvé la fameuse chouette. Il n'a pas dit non plus où elle était cachée. Hein. Donc, on attend de voir les prochaines communications. Mais bon, on sait que maintenant, cette fameuse chasse au trésor qui aura duré 31 ans est terminée. Et c'est amusant parce qu'on a du côté nord-américain, mais... américain, je serais plus précis. On a un peu un truc qui ressemble à ça. Hein? Okay. En 1982, il y a un type qui s'appelle Byron Price, qui est un excentrique, disons ça comme ça un peu, qui décide d'organiser une grande chasse au trésor sur le territoire américain. Il va dissimuler 12 coffres. mais des coffres qui sont faits en plexiglas et à l'intérieur, il y a comme un morceau d'argile. Et chaque coffre représente une pierre précieuse, un diamant, une émeraude, peu importe. Et il cache ces boîtes-là. Il publie un ouvrage qui s'appelle « The Secret » et qui est accompagné d'un tableau et d'une espèce de poème. Et si tu réussis à déchiffrer le poème et l'associer au tableau, le tableau contient des indices, ça va t'amener à un endroit et c'est là qu'est enterrée l'une de ces fameuses 12 boîtes là, qui ont été enterrées à travers le territoire des États-Unis. À ce jour, hein, ça a été fait en 1982. Entre-temps, Byron Price est décédé. C'est la famille de Price qui voit à la suite des événements.
Wow.
Et à ce jour, hein, lui aussi, un peu comme dans le cas de la chouette d'art. Price, quand il a lancé cette idée-là, il était convaincu que ça durerait un an ou deux. Et aujourd'hui, donc, l'affaire remonte à 1982 et aujourd'hui, seulement 3 de ces boîtes été retrouvées. Et récemment, le journal Le Devoir, je crois, a fait un article parce qu'il y a des chasseurs de trésors qui croient que l'une des boîtes pourrait être enterrée au parc Jean Drapeau à Montréal.
Ah, oh, ouais!
Parce qu'ils ont regardé, il y a une photo, une peinture qui représente comme une espèce de qui ne représente pas une espèce, mais une femme, une sorte de un peu sorcière. La forme de la bouche ressemble un peu à l'île de Montréal. Il y a plusieurs éléments là-dedans qui leur font penser à ça. Bon, je ne sais pas, mais ça m'apparaît très improbable parce que ça me paraît invraisemblable que Price ait enterré une des 12 boîtes en dehors des États-Unis. Je comprends, parce que tu sais, c'est une chasse aux États-Unis, donc ce serait d'anticiper que quelqu'un pourrait aller dans d'autres pays. S'il a pas enterré une boîte au Canada, il n'y a rien qui dit qu'il n'a pas enterré une en Italie ou une en Chine. Là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est pas vraisemblable. Je pense que quand Price a fait de Secret, c'est une chasse à travers les États-Unis. Donc, j'aurais tendance à dire que les 12 villes qui ont été sélectionnées par Price pour enterrer ces fameux coffres au trésor l'ont été aux États-Unis. Mais néanmoins, on voit encore une fois qu'ils ont anticipé que ça durait moins longtemps que ça dure en même temps. Aujourd'hui, hein, donc 3 boîtes seulement, dont l'une de ces boîtes a été trouvée par Josh Gates, hein, qui fait une émission. Je pense qu'on peut suivre ses aventures à Historia ou Canal D ou un truc comme ça. Josh Gates, le chasseur de mystères.
OK. Ah, il a réussi à trouver quelque chose.
Oui, c'est ça. Et lui, avec un groupe de chasseurs de mystères comme ça, ils ont réussi à en trouver une de ces boîtes-là. En fait, c'est pas vraiment lui qui l'a trouvée. Par hasard, elle avait été enterrée, je crois, c'était à Boston, dans ces coins-là.
Okay.
Et évidemment, t'enterres ça en 1982 dans le milieu d'un boisé, mais tu sais pas à quoi ça va ressembler le boisé dans 20 ans ou dans 30 ans. Or, il y a des ouvriers qui travaillaient à aménager un parc pour des maisons, un truc comme ça. Et en creusant, ils ont brisé la boîte avec des morceaux de plexiglas. Fait que certains d'entre eux les ont isolés et je ne sais pas de quelle façon, je ne me rappelle pas, mais il y a des gens qui ont comme fait l'association. Et finalement, Josh Gates s'est lancé à la poursuite de ça, il est avec les gens, puis finalement, c'était bel et bien une des fameuses boîtes qui avait été enterrée 25 ans plus tôt par Byron Price.
Donc, une dans le secteur de Boston, les autres ont été retrouvées, où est-ce qu'on a leur emplacement?
Ouais, je les ai pas sous la main, okay. Mais on sait où elles ont été retrouvées, puis les 3, évidemment, ont été retrouvées sur le territoire américain. Donc, sur les 12, ben, il en reste encore 9 à trouver. Bonne chance aux chasseurs de trésors. Mais c'est amusant parce que, bon, l'affaire remonte quand même à 1982. Hein. Ça fait donc 24 ans. Ouais, c'est ça, 24 ans que ça court, cette fameuse chasse. Et seulement 3 boîtes ont été trouvées.
C'est fascinant, alors, même pour la chouette d'or, là, qu'un petit ouvrage. Est-ce que c'est devenu un best-seller en France?
Oh oui,
hein,
ils ont publié, ils ont fait 5, 6, 7 éditions de ce livre-là.
Ah, OK!
C'est amusant parce que, comme je te mentionnais, au début, ils enterrent la chouette, la fameuse chouette d'or. Au début, ils sont tellement persuadés que ça ne va durer que quelques mois, que le premier modèle de la chouette qu'ils enterrent, c'est un modèle qui est simplement en fer. Et là, comme les mois s'écoulent, bien évidemment, de temps à autre, hein, on l'a appris plus tard, là, mais Becker racontait que, comme toutes les 4 ou 5 ans, il retournait à l'endroit où la fameuse chouette avait été enterrée pour s'assurer qu'elle était toujours là. Hein, parce que les années s'écoulant, comme je te disais, on ne sait pas, un développement domiciliaire, merci, bonsoir. Donc, ouais. Et à un moment donné, ils l'ont déterrée. Hein, ça faisait comme 15 ans qu'elle était enterrée. Donc, ils déterrent la chouette. Et là, ils s'aperçoivent que la chouette qui était en fer était toute rouillée. Fait que, donc, ils l'ont remplacée par une en bronze, donc qui résiste davantage à l'oxydation. Et là, ils ont réenterré au même endroit la chouette en bronze. Et c'est cette fameuse chouette pote de bronze qui a été trouvée là, il y a 2 jours et qui met fin ainsi à cette chasse qui aura duré 31 ans. C'est une belle histoire, hein?
Tellement. A-t-elle une valeur avec les pierres? C'est-tu dans le mythe qu'elle avait des pierres précieuses puis qu'elle était en...
Non. Les types mettent la vraie chouette d'or, elle existe, là.
Okay.
Hein? Elle fait à peu près 50 cm. Il y a des parties qui sont en argent, d'autres parties qui sont en or, et les yeux sont comme des rubis, le bec est en diamant. Là, vraiment, là, c'est vraiment un objet qui est magnifique. Et comme je l'ai mentionné, là, la valeur... Bon, on l'estime comme ça rapidement, là, mais c'est gros. Si on ne tient pas compte de la valeur historique de l'objet, parce que, tu sais, évidemment, si on se retrouvait sur le marché des encans, ben, probablement que des gens seraient peut-être intéressés de débourser davantage, ouais, à cause du mythe qui entoure l'objet, là, tu sais. Mais sa valeur marchande au niveau de ses matériels, de ses métaux précieux et des pierres précieuses, c'est grosso modo à peu près 150 000 francs. 150 000 francs, 150 000 euros. Mm. C'est à peu près 200 000, 225 000 $. T'sais. Donc,
c'est fascinant.
Oui, c'est une très, très bonne histoire. Hein, c'est comme, au fil des ans, on estime qu'il y a à peu près là, 200 000 personnes qui se sont lancées dans la chasse à la fameuse chouette d'or.
Bien hâte de savoir qui a ramassé ça, et surtout, ouais, l'âge de la personne. T'sais, c'est, ouais, quelqu'un qui suit ça depuis 31 ans.
Je t'ai isolé. C'est rien que pour te montrer, hein, la complexité. Hein. Visiblement, c'est Max Valentin et son ami Michel Becker étaient très optimistes de penser qu'on déchiffrerait ça à l'intérieur d'un an. Je t'ai isolé ici. Il y avait 11 énigmes, puis je t'en ai cité 2 ici. Là. Écoute, je te les lis textuellement telles qu'elles sont, elles ont été publiées. Pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité, en vérité, ne sera pas l'affaire de devin.
Oh!
Écoute, le père Foura, là.
Moi, je reste en barré, là.
La deuxième. Quand à Curusburk, c'est ça, quand à Curusburk, tu as Albion dans le dos, cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste.
Hmm. Ouais, non, c'est...
Fait que, écoute, et là, t'en as 12 comme ça, et au fur et à mesure où tu déchiffres chacune de ces énigmes, mais il suffit que t'en aies une de mauvaise et t'es parti dans mauvaise direction, là, tu sais, là. Donc,
ça revient à ce qu'on disait avec l'information. Maintenant, j'imagine qu'il y avait des forums, des gens qui essayaient de trouver des pistes
absolument.
De solutions.
En fait, ils s'étaient baptisés eux-mêmes, le groupe, s'était baptisé les Chouetteurs. Ils avaient un site Internet, là, lachouette.net, et ils se réunissaient, échangeaient entre eux. Puis c'est ça, le groupe s'appelait les Chouetteurs. C'était assez amusant parce qu'on a appris aussi, Michael Becker a dit, à quelques reprises, à l'époque où Max Valentin était aussi vivant, ils sont allés à quelques reprises à des endroits où la chouette est enterrée. Là. Et ils ont remarqué que des gens sont passés proches. Hein. Ils ont trouvé à des endroits où, sur la piste des indices, ils ont trouvé des trous qui montraient que des gens étaient passés proches. Ils ne l'avaient pas trouvé. Ils n'avaient pas trouvé ou l'indice ou l'élément nécessaire ou la chouette elle-même. Ils ont vu qu'il y avait des gens qui étaient quand même passés proches. Personne n'a mis la main sur la chouette, mais des gens étaient passés proches quand même.
Incroyable.
Donc, quelle belle histoire, l'histoire de la chouette d'or. Je voulais en parler parce que moi, je me rappelle, je suis allé en France à quelques reprises.
Pour essayer de la trouver?
Non, pas du tout, mais des gens m'en parlaient. Hein. Okay. Christian, tu devrais venir avec nous, tu es bon dans les énigmes, tu pourrais peut-être nous aider. Nous autres, on cherche la chouette d'or. C'est assez amusant comme histoire. Puis, ça nous fait penser qu'ici, on a Oak Island. Là. Ils ont tout creusé dans l'île, ils n'ont rien trouvé. Mais bon,
je les proposerais pour les boîtes aux États-Unis. Il y a des gens qui nous disent que ça fait 42 ans, 82, 2024.
C'est ça. Écoute, c'est quand même incroyable. Là, tu te dis, écoute. Je ne sais pas qui a trouvé la chouette d'or, mais peut-être qu'il devrait aller donner des conseils aux gens de Oak Island pour où trouver le trésor. Il y a peut-être une solution que les autres n'ont pas compris. Tu sais. Mais vraiment une histoire extraordinaire.
Merci encore pour ce soir. Les auditeurs ont trouvé ça super fascinant également par texto. On se retrouve vendredi prochain pour, cette fois-ci, on va être dans les questions d'auditeurs.
Oui, absolument. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Envoyez-les sur le site. Camille va me les faire parvenir et on va piger là-dedans pour essayer d'y répondre.
Gros gros week-end à venir. Joker Folie à deux sort au cinéma. C'est depuis hier, en fait, pour ceux qui veulent aller au cinéma. Et nous, on parle d'une autre Folie à deux, mais lundi, à cause d'un crime occulte dans Suspect X dès 22h.
Ouais, bienvenue, la famille, le couple Ruda vous invite à souper.
Oui. Bon week-end, Christian. Merci.
Bon week-end. Ciao.
Bye.